Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Je suis très heureux de vous retrouver pour Biotine, l'émission d'actualité scientifique. Tous les samedis, entre 12h et 13h, nous parlons de l'actualité scientifique. On va parler de pas mal de sujets aujourd'hui encore dans cette émission sur Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et puis l'application maintenant sur votre smartphone qui s'appelle Radio Player France et qui vous permet d'écouter maintenant Biotine sur cette application Radio Player France. Donc vous avez la possibilité maintenant de pouvoir nous suivre partout, tout le temps. C'est quand même formidable tout ça, bien sûr. Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin à 10h vous permet de vous tenir un petit peu informé de l'actualité scientifique. Il y a pas mal de moyens de se tenir informé de l'actualité scientifique. Il y a pas mal de sites, il y a pas mal de revues qui sont accessibles, disponibles. Et puis la culture scientifique, elle se maintient, elle s'exerce également en visitant des musées scientifiques. Il y a toujours un coin, un lieu, un espace, une association, un musée qui est pas loin de chez vous. Donc je vous incite hein, pendant cette période hivernale de vous rendre dans ces lieux pour découvrir plein de choses, comprendre un peu ce qu'est la science, qu'est-ce que le raisonnement scientifique, qu'est-ce qu'une démarche scientifique. Ça permet un petit peu comme ça d'avoir, je dirais, un petit recul sur certains sujets qui sont parfois à la une des médias et c'est un petit peu troublant parfois d'avoir comme une information prête à manger sans avoir nécessairement le temps de se poser quelques questions. Donc c'est à chacun d'entre nous de faire un petit peu cet effort de compréhension. Et cette émission Biotine, ça nous permet régulièrement, d'une façon... On va essayer de dire que c'est la plus conviviale et la plus digeste possible. En plus, on passe entre 12h et 13h, donc il y a une digestion d'informations. Mais voilà, c'est essayer un petit peu de nous tenir informés de ce qui se passe un petit peu dans le monde, dans différents domaines, parce que ça nous concernera dans un avenir plus ou moins proche. Et donc, il y a pas mal de sujets qu'on a évoqués et qu'on évoquera encore dans cette émission qui dure une heure. Et puis, on aura bien sûr un peu de musique, bien évidemment, dans cette émission. Alors, nous sommes le 1er février. Déjà, c'est effrayant. L'aspirine a été inventée un 1er février, enfin, en tout cas le brevet déposé en 1899. C'était un 1er février l'invention de l'aspirine. Il y a eu la création de l'Agence européenne pour l'énergie nucléaire en 1958, un 1er février. Et le même jour, il y a eu le lancement du premier satellite artificiel américain qui s'appelait Explorer One, en 1958 quand même. Et plus proche de nous, c'est en 1999, le code Morse, disparaît officiellement de toutes les communications pour être remplacé par un système satellitaire qui s'appelle GMDSS. Et donc le Morse disparaissait le 1er février 1999. Naissance. Le 1er février 1801 de Jean-Théodore Lacordaire, entomologiste français, malgré son intérêt évident pour l'histoire naturelle, eh bien sa famille l'envoie au Havre pour étudier le droit. Et en 1824, il s'embarque pour Buenos Aires, où il devient commerçant ambulant. Il parcourt ainsi l'Amérique du Sud, profitant de ses déplacements pour réaliser de nombreuses observations sur la faune locale. Et Georges Cuvier, un célèbre anatomiste français, l'appelle auprès de lui en 1830 à Paris. Il participe ainsi, Jean-Théodore Lacordaire, à la fondation de la Société entomologique de France. Il va retourner en Guyane à la fin des années 1830 pour récolter des spécimens d'histoire naturelle. Donc l'entomologiste français Jean-Théodore Lacordaire, né un 1er février 1801. Décès le 1er février 1976 de George Hoyt Whipple, médecin américain, chercheur, professeur universitaire en médecine. Whipple a partagé un prix Nobel de médecine pour notamment des découvertes concernant l'utilisation thérapeutique de foie dans des cas d'anémie. Et donc c'est lui qui a décrit la maladie de Whipple. Donc il a donné son nom à une maladie et il est donc décédé le 1er février 1976. Cette éphéméride, ça nous permet également d'avoir une notion de temps, quelque part d'histoire, de savoir à quel moment on a découvert telle ou telle chose. à quel moment on a voilà, eu telle ou telle découverte, telle ou telle avancée vraiment importante dans l'histoire des sciences et des techniques, bien évidemment. Alors, pas mal de choses qui n'ont pas nécessairement là encore de lien direct les uns entre les autres en termes de thématiques, mais je trouvais assez intéressant de commencer par cette étude qui a été publiée dans la revue Nature Human Behavior. L'idée, c'est qu'en quelques secondes, on se forge une opinion sur une personne qu'on croise dans la rue ou dans un magasin. Et ces premières impressions vont façonner nos jugements et la confiance que nous accordons aux inconnus. Mais ce n'est pas tout. Selon cette étude, donc, elles impacteraient aussi notre capacité à percevoir et comprendre les émotions des autres. Il y a diverses études qui ont montré que les jugements instantanés que nous portons sur les autres, sur la base de leur apparence physique, vont influencer nos choix amoureux, par exemple, mais aussi des choix aussi cruciaux que des élections politiques ou des décisions de justice. Et ces découvertes posent une question centrale, c'est est-ce que, dans quelle mesure, ces biais affectent-ils nos interactions quotidiennes? Et bien, pour tenter de répondre, il y a une équipe de recherche qui a été dirigée par Chun-Jun Lin de l'Université de Californie qui, cette équipe, s'est penchée sur des situations du quotidien où nous tentons de décrypter les émotions d'autrui. Grâce à une combinaison de modèles informatiques et de données collectées auprès de volontaires issus de tous les continents, et bien les chercheurs ont analysé l'impact des traits du visage sur l'interprétation de 60 états mentaux dans des contextes concrets. Par exemple, les participants devaient évaluer à partir du visage d'une personne si celle-ci pouvait ressentir de la jalousie en entendant son meilleur ami complimenter quelqu'un d'autre. Voilà un exemple concret qui a été expérimenté. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans 47 des 60 cas étudiés, l'apparence du visage influençait les jugements des participants. Cela signifie que dans la plupart des cas, lorsque d'autres personnes essaient de comprendre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, leur compréhension sera biaisée par leur première impression de votre personnalité. Ce qui n'est pas nécessairement votre véritable personnalité, mais simplement le jugement des autres. C'est ce qu'explique donc cette auteure de l'étude, Chun-Jun Lin. Et le fait intéressant, c'est que cette équipe de recherche a constaté que nos premières impressions influencent de la même façon notre perception de l'état mental des autres, ou que l'on vive dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une influence au niveau de la situation géographique. Ces biais transcendent les frontières, s'imposent comme une constante universelle, indépendamment des cultures et des nationalités. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Et donc cette étude ouvre la voie à une meilleure compréhension des mécanismes qui guident nos jugements sociaux. Elle invite aussi à prendre conscience de ces biais parfois invisibles, mais qui peuvent peser lourdement sur nos décisions, bien au-delà du premier regard. Alors, est-ce que la première impression est-elle vraiment la bonne? Eh bien, en tout cas, la première impression, voilà, fatalement une influence, et c'est quand même assez troublant et assez étonnant, bien évidemment. Autre article, alors là, on n'a pas du tout je ne chercherai pas de transition parce que je n'en vois pas, mais on va parler des peaux de banane. Eh bien, il y a une étude récente qui a été publiée il y a déjà quelques mois, mais ça a été diffusé assez récemment dans la revue ISIS Food Science and Technology. En fait, cette étude a dévoilé le potentiel caché de la peau de banane. Les scientifiques ont démontré que cette peau de banane, lorsqu'elle est correctement préparée, elle peut devenir un allié précieux en cuisine. Elle offre des bienfaits nutritionnels tout en réduisant le gaspillage alimentaire. En fait, la transformation de la peau de banane en farine nutritive suit un processus bien défini, le blanchiment de la peau, un séchage minutieux et un broyage en farine fine. Donc on obtient cette espèce de farine. Et cette méthode, elle permet d'obtenir une farine un peu polyvalente que l'on peut utiliser dans diverses préparations culinaires. Et les chercheurs ont particulièrement étudié son incorporation dans des biscuits sucrés avec des résultats surprenants, parce que non seulement les produits obtenus rivalisent en goût avec leurs homologues plutôt traditionnels, mais ils les surpassent en termes de valeur nutritionnelle. C'est-à-dire que l'ajout de farine de peau de banane enrichit considérablement les pâtisseries en fibres, en magnésium, en potassium et en composés antioxydants. Et ces nutriments sont essentiels pour notre santé, Ça contribue à une meilleure digestion, ça contribue également au renforcement osseux et à la lutte contre le stress oxydatif. Et donc l'idée d'utiliser la peau de banane en cuisine, ça peut sembler un peu saugrenu au premier abord, mais dans cet article de Futura, on nous explique que les tests sensoriels menés dans le cadre de l'étude ont révélé des résultats étonnants. Les consommateurs ont exprimé une satisfaction équivalente pour les biscuits enrichis en peau de banane par rapport aux versions classiques. Et donc du coup, ce constat ouvre la voie à une adoption plus large de cet ingrédient innovant. Mais les chercheurs ont identifié un point d'équilibre vital. Un ajout excessif de farine de peau de banane peut altérer la texture des biscuits, ce qui va les rendre plus bruns et un peu plus durs. Et la clé réside bien sûr, et c'est comme tout, dans le dosage bien évidemment. Et on nous dit qu'une proportion de 7% de farine de peau de banane s'est avérée optimale parce que ça offre un peu un équilibre parfait entre les bienfaits nutritionnels et les qualités que l'on attend de ces produits. L'utilisation de la peau de banane ne se limite pas non plus aux biscuits. Il y a des études antérieures qui ont notamment visité son potentiel dans d'autres préparations culinaires. Le pain, qui était enrichi en peau de banane, des gâteaux, et puis aussi une créativité culinaire qui s'empare également de cet ingrédient surprenant, parce qu'il y a quand même des chefs renommés qui ont intégré la peau de banane dans des recettes de curry. Ça s'est déjà vu. Tandis que la communauté végane analyse des alternatives comme le bacon ou le porc effiloché à base de peau de banane. Alors, donc, cette utilisation de la peau de banane en cuisine s'inscrit un petit peu dans une démarche plus large de réduction du gaspillage alimentaire, parce que ça représente quand même 40% du poids total du fruit, c'est-à-dire que quand on a une banane, quand on enlève la peau, on a enlevé 40% du fruit au total, donc c'est quand même assez conséquent. Et cette peau, elle est trop souvent jetée et ça gaspille en conséquence une source précieuse de nutriments. Et donc en l'intégrant dans nos préparations, eh bien on peut valoriser l'intégralité du fruit et puis on adopte ainsi une approche plus responsable de notre alimentation. De même, les propriétés antioxydantes et antimicrobiennes de la peau de banane pourraient contribuer à prolonger la durée de conservation de certains produits, ce qui ouvre donc un nouvel avantage, un avantage nutritionnel et un avantage pratique. Donc cette découverte ouvre la voie à de nouvelles perspectives culinaires qui vont pouvoir allier la santé, la durabilité et l'innovation. Et donc du coup, ne jetez pas vos peaux de banane parce que ça devient un ingrédient quasiment génial. On n'aurait jamais cru ça. Je ne sais pas. Vous êtes peut-être en train de déjeuner, ça se trouve vous allez attaquer une banane, et bien vous conservez la peau. C'est ce qu'on vous dit maintenant, c'est ce que la science vous dit. Donc essayez de faire des tests, je n'en sais rien. C'est assez étonnant, assez troublant, je ne sais pas. Je suis assez curieux de manger un gâteau à base de farine de peau de banane. Je vais essayer de chercher ça. Cherchons tous ensemble et on trouvera bien évidemment. Allez, on écoute pendant ce temps-là un petit peu de musique sur l'antenne de Graphite. We'll be right back.
fait pain pour les travailleurs, pour les chercheurs, pour les éducateurs. Des pépites pour les dictateurs, les manipulateurs, pour les spéculateurs. Des pépins pour les prolétaires, pour les protestataires, les révolutionnaires. Des pépites pour le nucléaire et dans les ministères des pépites. Pero así desde principio, los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso. Ni la voluntad, ni los sueños, ni las revoluciones. Pero es así desde el principio. Los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso. Pero es así desde el principio. Los pobres no pueden vivir como lo quieren y nada jamás cambiará eso. Ni la voluntad, ni los sueños, ni las revoluciones. Pero es así desde el principio. Los pobres no pueden vivir como lo quieren, pero juntos sí que lo cambiaremos. Pero juntos lo cambiaremos.
Des pépins, c'était ma valise sur l'antenne de Graphite. C'était sympa. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique tous les samedis entre 12h et 13h. Le mardi matin, la rediffusion à 10h sur l'antenne de Graphite. Vous avez raison de vous tenir informé de l'actualité scientifique. On va parler de plein de choses là encore. Vous nous suivez sur la bande FM, le 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise, la Somme, sur graphite.net en direct ou en différé grâce au podcast et sur l'application. Ah, j'oublie toujours, Radio Player France, excusez-moi, en fait c'est marqué sur le tableau à côté, mais j'ai toujours pas encore eu le réflexe. Radio Player France, vous téléchargez cette application et ça vous permet d'écouter Biotine, bien sûr, et surtout l'intégralité des émissions de Graphite sur cette application. Alors, j'étais en train de regarder, pendant qu'on écoutait donc ce titre du groupe Ma Valise, les articles que l'on pouvait évoquer, et puis il y a des fois des liens qui se font avec certains articles. Alors, on va prendre ces deux en direct. Je suis en train de construire le fil conducteur de cette émission quasi en direct. Le premier concerne cette équipe de chercheurs dirigée par Salvador Rivera Llorens, qui est l'ancien responsable de la conservation au Musée archéologique national d'Espagne, qui a fait la découverte l'année dernière assez extraordinaire, et les résultats ont été publiés récemment dans la revue Trabajos de Prehistoria. Donc, Trabajos de Prehistoria, c'est-à-dire sûrement les travaux de la préhistoire. Parmi les 66 objets majoritairement en or du trésor de Villena, deux artefacts sont révélés être forgés à partir de fer météoritique, donc à partir d'une météore. Cette trouvaille remet en question notre compréhension des techniques métallurgiques de l'âge du bronze dans la zone ibérique, il y a plus de 3000 ans. Le trésor de Villena a été découvert à Alicante, en Espagne, en 1963. Ce trésor est considéré comme l'un des exemples les plus importants d'orfèvrerie de l'âge du bronze dans la péninsule ibérique et en Europe. Et parmi les objets scintillants, il y a deux pièces corrodées qui ont attiré l'attention des chercheurs. Il y a eu un bracelet et un hémisphère creux décoré d'or qui était probablement parti d'un sceptre ou d'un pommeau d'épée. Et ces objets présentaient une apparence ferreuse, ce qui posait un problème chronologique, parce que l'âge du fer dans la péninsule ibérique n'a débuté qu'autour de 850 avant Jésus-Christ, alors que les objets en or du trésor ont été datés beaucoup plus vieux, de 1500 à 1200 avant Jésus-Christ. Donc pour résoudre cette énigme, les chercheurs ont utilisé ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. L'idée, c'est d'analyser un peu la composition, notamment de ces deux pièces. Et malgré leur état de corrosion avancé, les résultats ont révélé une teneur en nickel bien plus élevée que dans celle du fer terrestre. Et cette caractéristique est typique du fer des météores, ce qu'on appelle donc le fer météoritique. Cette découverte a permis de résoudre le dilemme chronologique, parce que ces objets ont bien été fabriqués à la même époque que le reste du trésor. Donc on est bien dans cette zone 1400-1200 avant Jésus-Christ. Il s'agit des premières pièces en fer météoritique identifiées dans la péninsule ibérique, qui sont compatibles avec une datation de la fin de l'âge de bronze. Cette découverte a des applications majeures pour notre compréhension de la technologie métallurgique de l'âge de bronze ibérique, donc dans cette zone de l'Espagne. Elle suggère que les techniques de travail du métal étaient bien plus avancées qu'on ne le pensait auparavant dans cette région il y a plus de 3000 ans. Le fer météoritique était un matériau rare et précieux dans l'Antiquité. Il y a d'autres artefacts en fer météoritique de l'âge du bronze qui ont été découverts ailleurs dans le monde, notamment le célèbre poignard en fer météoritique du pharaon Toutankhamon, et puis des armes de l'âge du bronze en Europe et au Proche-Orient. Et ces objets étaient considérés comme extrêmement précieux, probablement réservé à une élite, et la présence de fer météoritique dans le trésor de Vilina souligne l'importance et la richesse de ce dépôt. Alors bien que ces résultats soient prometteurs, les chercheurs soulignent que l'état de corrosion avancée des objets rend les conclusions non définitives. Ils proposent d'utiliser des techniques d'analyse non invasives plus récentes pour essayer d'obtenir des données plus détaillées et de confirmer ainsi leur découverte. En tout cas, cette étude, elle ouvre de nouvelles perspectives sur les échanges commerciaux et les transferts de technologies dans l'Europe de l'âge du bronze. Elle nous invite à reconsidérer notre vision des sociétés préhistoriques et de leurs capacités technologiques. Le ciel, littéralement, n'était pas une limite pour ces artisans ingénieux de l'Antiquité. Donc voilà, un métal un peu extraterrestre, hein, si ça vient d'une météore, qui fascine les chercheurs avec ce trésor archéologique. Autre article qui est un petit peu dans la même veine, c'est la cathédrale de Vilnius, qui a une imposante façade d'inspiration classique et baroque. Et cette cathédrale cachait un secret depuis plus de 80 ans au cœur de la capitale lituanienne. Il y a des chercheurs qui menaient des études pour sonder les murs et les parties inférieures de la cathédrale. Et ils réalisaient alors une trouvaille pour le moins inattendue lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée début janvier. Les autorités déclaraient avoir découvert une niche abritant des trésors royaux sous un escalier de l'édifice. Les objets retrouvés se révèlent particulièrement impressionnants parce que ça marque des décennies d'histoire dans cette région de l'Europe. Selon le site Live Science, qui va relayer des échanges avec les universitaires ayant travaillé au sein de la cathédrale, eh bien, ce sont plusieurs couronnes, des bagues et un sceptre en or qui ont été retrouvés. Ils forment ce qu'on appelle une régalia, c'est-à-dire un ensemble d'insignes royaux utilisés lors de la cérémonie de couronnement. Et une plaque initialement apposée sur un tombeau éclaire sur l'identité de la famille qui avait cette régalia. Elle est donc attribuée à Alexander Jagiellon, qui est roi de Pologne, grand-duc de Lituanie, ainsi qu'à Elisabeth Habsbourg et Barbara Radziwill. Et ces deux dernières étaient deux des épouses de Sigismond, lui aussi roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, donc il est descendant d'Alexander. Et ces merveilles étaient entreposées dans la crypte de la cathédrale. Le roi Jagiellon, je vais y arriver, étant mort en 1506, donc c'est quand même assez loin, et ses insignes ont ainsi pu reposer dans les parties inférieures du bâtiment pendant plusieurs siècles, avant d'être déplacé en 1931 suite à une inondation, je vais y arriver. Mais en fait, ces précieux objets ils disparaissent en 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, éclate sur le continent. Et dès juin 1940, la Lituanie est occupée par l'armée rouge, tandis que l'Europe centrale subit les offensives de la Wehrmacht. Et donc l'URSS étend alors son empire sur la Pologne, qui se voit divisée entre les États totalitaires suite au pacte Molotov-Ribbentrop de 1939. Et les spécialistes en mission dans la cathédrale, ils employaient ces derniers mois des caméras endoscopiques qu'on pouvait introduire dans des fissures, dans différentes aspérités qu'on avait dans la cathédrale, pour essayer d'explorer les parties inaccessibles du site. Et c'est comme ça qu'ils ont pu découvrir, ou en tout cas redécouvrir cette régalia, qui jette la lumière sur une période importante de l'histoire de la Lituanie, parce qu'il y a des questions qui restent toutefois en suspens, notamment de savoir qui a bien pu cacher ce trésor royal perdu depuis la Seconde Guerre mondiale et donc retrouvé dans une crypte insoupçonnée. C'est vraiment fascinant et vous pouvez voir un petit peu aussi ces objets, bien sûr, sur Internet. Enfin, on peut trouver assez facilement les images de ce trésor enfoui. Donc voilà, il y avait deux articles qui étaient assez intéressants sur des trésors ou des choses assez anciennes que l'on peut découvrir ou redécouvrir. Autre chose et autre sujet, on va parler des animaux. Alors pas des animaux ou des insectes qui nous fascinent beaucoup. Elles sont présentes hein, pourtant un peu partout autour de nous. Ce sont les araignées. On considère que les scientifiques connaissent à peu près plus de 50 000 espèces d'araignées. 50 000, c'est énorme. Ils nous ont appris qu'elles ont de nombreux yeux, d'accord, ça on le savait. Mais jusqu'ici, ils ignoraient encore comment les araignées peuvent détecter les odeurs, alors qu'ils ont montré depuis longtemps qu'elles sentent des odeurs bel et bien, et notamment les odeurs des phéromones sexuelles notamment. Et donc aujourd'hui, enfin, il y a des biologistes de l'université de Lund en Suède qui ont mis à jour le secret du nez des araignées. En fait, le nez des araignées se cache dans des sortes de poils sensoriels qui sont situés sur leurs pattes. Et dans la revue PNAS, Proceedings of the National Academy of Science, les chercheurs racontent comment ils ont examiné des spécimens d'araignées spécifiques qui est l'Argiope brunici, et ils les ont examinés au microscope électronique à haute résolution, c'est-à-dire un microscope qui permet d'avoir des images véritablement détaillées, et comment ils ont découvert sur ces poils qu'on appelle des sensiles, sur les pattes ambulatoires des araignées mâles. Et ce sont des sensiles, donc des espèces de poils sensoriels qui sont différents de celles que l'on trouve chez les insectes et chez les autres arthropodes. Et donc ces nez, parce que c'est un peu la fonction du nez de l'araignée, ces nez, ils sont localisés sur la partie supérieure des pattes, des zones qui entrent peu en contact avec le sol, et donc qui sont plus sensibles à la détection des odeurs en suspension dans l'air. Et les expériences menées par les biologistes montrent qui réagissent bien aux odeurs des phéromones femelles. Seuls les mâles adultes sont équipés de ces nez, quand même assez étonnant, et quelques nanogrammes de phéromones suffisent à déclencher une réponse. Alors, ils ont poussé un petit peu plus loin leurs travaux. Hein. Les chercheurs ont découvert que ces fameux poils sensoriels, on en retrouve sur la plupart des 19 espèces qu'ils ont étudiées, et toujours chez les mâles, quand même, c'est fascinant, il n'y a que les hommes qui ont le droit de sentir, hein. Que les mâles chez les araignées qui ont le droit d'avoir un nez. Il reste un certain nombre de questions sans réponse. Bien sûr, pourquoi les femelles n'ont pas de capacité de sentir, et de savoir si ces nez des araignées peuvent détecter d'autres odeurs que celles des phéromones sexuelles. Donc, affaire à suivre, mais c'est quand même assez fascinant de voir que le nez des araignées se cache au niveau des pattes. Alors là aussi, vous avez quelques images que vous pouvez trouver, mais enfin bon, c'est pas non plus nécessairement quelque chose de réjouissant, mais c'est totalement quelque chose de fascinant. Allez, encore un peu de musique sur l'antenne de Graphite, et on se retrouve juste après pour continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. On apprend plein de choses fascinantes.
Yeah.
J'adore ce titre, c'est idiot. Joe Wedin et Jean Felzin, j'espère que je les prononce bien, sur l'antenne de Graphite. Je trouve la voix de la fille superbe. Vous écoutez Biotine, l'émission d'actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h, et le mardi matin, la rediffusion à 10h sur l'antenne de Graphite, 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et plusieurs articles qui n'ont aucun lien, mais qui sont assez intéressants, concernant notamment les chiens de Tchernobyl. Dans la région de Tchernobyl, il y a des chiens issus de deux populations pourtant séparées de seulement 16 km qui sont génétiquement différents. Alors normal, on serait tenté de dire, l'une de ces populations vit dans la zone d'exclusion de cette triste, célèbre centrale nucléaire, bien sûr, donc dans la zone d'exclusion, et l'autre un peu plus à l'abri des retombées de l'accident de 1986 dans la ville voisine. Mais des chercheurs à l'université d'État de Caroline du Nord aux États-Unis concluent aujourd'hui qu'il est peu probable que des mutations induites par les radiations aient entraîné ces différences génétiques entre les populations de chiens de la ville de Tchernobyl et celles de la centrale nucléaire. Dans une étude précédente, il y avait des chercheurs qui avaient identifié près de 400 régions des génomes, donc le matériel génétique de ces chiens, qui étaient différents entre les deux populations. De quoi confirmer qu'ils ne sont pas génétiquement les mêmes. Et dans une revue, la revue PLOS ONE, les chercheurs expliquent comment ils sont cette fois allés bien plus loin dans leur volonté de déterminer si une exposition de faible intensité pendant de nombreuses années à des toxines environnementales, ça peut être des radiations, mais aussi du plomb ou d'autres, eh bien, ça peut expliquer certaines de ces différences. Et les chercheurs notent d'abord que la génétique des chiens de la ville de Tchernobyl est très similaire à celle de chiens ailleurs en Russie, en Pologne, dans d'autres régions environnantes. Le groupe pourra ainsi tout à fait être considéré comme une population témoin. Puis, les chercheurs ont en quelque sorte actionné la fonction zoom pour essayer d'étudier les populations de chiens plus en détail. Et partant d'une analyse des chromosomes, et notamment jusqu'à l'analyse des nucléotides. Les nucléotides, c'est ce qui va constituer l'ADN. Eh bien, à la recherche notamment de mutations dans l'ADN des cellules reproductrices qui se seraient transmises des parents à leur descendance au fil du temps, eh bien, ils ont étudié tout ça et nous savons, par exemple, c'est ce qu'explique Matthew Breen, qui est généticien et qui a donc travaillé sur cette étude, nous savons par exemple que l'exposition à de fortes doses de radiation peut introduire une instabilité au niveau chromosomique. Bien que cette population canine soit éloignée de 30 générations ou plus de celles présentes lors de la catastrophe de 1986, les mutations seraient probablement encore détectables si elles conféraient un avantage de survie à ces chiens d'origine. Mais nous n'avons trouvé aucune preuve de ce type chez ces chiens. Alors comment les scientifiques peuvent-ils interpréter cela ? Eh bien, ils expliquent. Il est possible que les chiens qui ont survécu suffisamment longtemps pour se reproduire avaient déjà des traits génétiques qui ont augmenté leur capacité de survie. Il se peut donc qu'il y ait eu une pression sélective extrême au début et que les chiens de la centrale nucléaire de Tchernobyl soient simplement restés séparés de la population de la ville. Des travaux supplémentaires seront nécessaires pour valider ou non cette hypothèse et les généticiens américains y travaillent déjà justement, car ils affirment qu'il reste crucial de continuer à étudier les aspects environnementaux et sanitaires des catastrophes de grande ampleur comme celle de Tchernobyl. Il est certain que compte tenu de l'essor de la technologie et de l'industrialisation de nos sociétés, d'autres catastrophes de ce type se produiront invariablement à l'avenir. Et nous devons comprendre les risques pour la santé et la meilleure façon de protéger les populations, c'est ce que concluent les chercheurs américains. Et donc voilà, la catastrophe de Tchernobyl, ces chiens de Tchernobyl ne sont pas comme les autres. Ils ont donc examiné ces chiens, ils ont un petit peu découvert des choses assez intéressantes, évidemment. Autre chose, là, je ne me risque même plus à essayer de trouver des transitions, maintenant c'est terminé, c'est fini, je ferme la boutique. Autre chose concernant la frontière entre la science-fiction et la réalité, une frontière qui s'estompe parfois, c'est ce que témoigne un classement établi par la NASA, c'était en 2011, et parmi une pléthore de films futuristes, c'est Bienvenue à Gattaca qui a décroché la première place des œuvres les plus plausibles. Plus de 10 ans après cette évaluation, eh bien, l'agence spatiale américaine n'a toujours pas actualisé sa liste, laissant ce long métrage qui date de 1997 sur le trône de la science-fiction réaliste. Bienvenue à Gattaca nous plonge en espèce dans un avenir où la manipulation génétique est monnaie courante, et le film met en scène une société divisée entre les individus génétiquement optimisés et ceux qui sont nés naturellement considérés comme inférieurs. Et cette vision un peu dystopique soulève des questions éthiques brûlantes d'actualité. Le réalisme du film repose sur plusieurs éléments clés. Il y a une représentation crédible des avancées en génie génétique, une exploration des conséquences sociales de telles technologies et la mise en scène d'une discrimination qui est basée sur le patrimoine génétique. Selon la NASA, ce scénario est tout à fait envisageable. En effet, les progrès actuels en génétique médicale permettent déjà d'étudier les prédispositions à certaines maladies au sein d'une famille. Le commissariat à l'énergie atomique souligne que la connaissance approfondie de l'ADN humain pourrait effectivement établir des prédispositions génétiques individuelles, soulevant de nombreuses questions éthiques, bien sûr. Alors, Bienvenue à Gattaca a marqué l'histoire du cinéma de science-fiction, mais son influence ne s'est pas traduite par une suite directe. Il y a un projet de série télévisée qui s'appelle simplement Gattaca qui a été envisagé. Mais ce projet a été abandonné. Et l'absence de suite n'a pas empêché le film d'inspirer de nombreuses œuvres ultérieures traitant de thèmes similaires. Par exemple, les implications éthiques de la modification génétique, la discrimination basée sur des caractéristiques biologiques et la quête d'une société parfaite, entre guillemets, au détriment de la diversité humaine. Alors, ces sujets restent bien sûr d'une brûlante actualité, alors que les avancées en génie génétique continuent de progresser à un rythme soutenu. Et donc, depuis 2011, le paysage cinématographique de la science-fiction s'est considérablement enrichi, bien évidemment, avec pas mal d'œuvres qui ont reçu les éloges de la communauté scientifique, Interstellar ou The Martian également. Pourtant, la NASA n'a pas mis à jour son classement, et donc ça soulève plusieurs questions. Est-ce que les critères d'évaluation de la NASA ont évolué? Est-ce que les nouveaux films de science-fiction sont-ils à la hauteur de Bienvenue à Gattaca en matière de plausibilité? Et comment le progrès scientifique influence-t-il notre perception de ce qui est réaliste en science-fiction? Donc une mise à jour de ce classement serait l'occasion de réévaluer l'impact et la pertinence de Bienvenue à Gattaca à l'aune des avancées scientifiques et sociales des dernières décennies, parce que c'est quand même un film qui est assez ancien, hein, 1997, et le maintien de ce film au sommet du classement de la NASA témoigne de sa vision prémonitoire et de son exploration nuancée des enjeux éthiques liés à la génétique, des thèmes qui résonnent plus que jamais dans notre société contemporaine, et c'est souvent qu'on en parle dans cette émission, bien évidemment. Si vous avez vu Bienvenue à Gattaca, tant mieux pour vous, vous pouvez le revoir, et ceux qui ne l'ont jamais vu, je vous invite à le découvrir, bien évidemment. Allez, on écoute encore un peu de titre et on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Is my history, my roots like the roots of a tree. No bullshit, no props, just the reality. Yes, I was born under the sun shining in the sky, but when I shut my cry, bye-bye the blue, blue sky, yo. So the wind shook the trees, clouds became a grease, feathers rumbled, spain, it was pouring rain. Sunrise became a river, a torrent, a lover. Sunrise became a river, the torrent, a lover, which cleaned the earth and told all the universe. I'm
den Farm wo du Henk aus an du Fulze, hey Lutron Sich klang an uns zwei Repetaris aus i du La famille se redoute, a de bon Ben de uski si es ben gusutero per fortuno Si es tumba du feu cum un opero de luno De mignon de peluco, face un opa bruno E den veni genti dien lu cantaruno
Voodoo Child, c'était Paper Jarrett sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Deux informations. Une intéressante d'un point de vue médical, parce que ça apporte un nouvel espoir sur le cancer du pancréas, qui est l'un des cancers les plus redoutables. Des chercheurs de l'université de San Diego viennent d'identifier une enzyme qui favorise la croissance de la tumeur. Ça ouvre ainsi la voie à de possibles traitements. Il y a près de 16 000 cas en France en 2023. Le cancer du pancréas est le sixième en termes de fréquence. Pourtant, avec une incidence en augmentation, on estime que ce cancer sera la deuxième cause de mortalité par cancer dans notre pays à l'horizon 2030. Dans 90% des cas, le cancer du pancréas apparaît sous la forme d'un adénocarcinome canalaire pancréatique. C'est un type de cancer qui se développe à partir des cellules qui produisent le suc pancréatique qui est nécessaire à la digestion des aliments. Et c'est justement à partir de cette forme que des scientifiques viennent de faire une découverte porteuse d'espoir. Les scientifiques ont en effet identifié un nouvel acteur clé dans le développement de ce cancer, l'enzyme MICAL2. Cette protéine, habituellement impliquée dans le déplacement et la morphologie des cellules, se révèle être un véritable carburant pour les tumeurs pancréatiques. Et les auteurs ont en fait observé trois éléments. Le premier, c'est que parmi les patients qui subissaient une intervention chirurgicale pour retirer un adénocarcinome canalaire pancréatique, eh bien ceux dont les cellules tumorales présentaient une faible expression de cette enzyme ont survécu deux fois plus longtemps que ceux dont les cellules tumorales en produisaient davantage. Donc ça suggère que cette enzyme MICAL2 pourrait être impliquée dans la progression de la maladie vers un stade avancé. Le deuxième point, c'est qu'il y a une protéine qui s'appelle CRAS qui est connue pour être souvent impliquée dans l'émergence du cancer. Elle stimule la croissance des cellules cancéreuses, mais le fait de désactiver le gène MICAL2, eh bien ça ralentirait considérablement l'activité de cette protéine CRAS. Et lorsque les cellules tumorales sont déficientes à cette enzyme MICAL2, eh bien la voie de signalisation CRAS est incapable de récolter les nutriments qui conduisent à la croissance tumorale. Et troisième point, cette enzyme MICAL2 faciliterait la propagation du cancer vers d'autres organes sains. Donc il n'y a aucun doute pour les auteurs, cette enzyme pourrait être une cible prometteuse pour les thérapies médicamenteuses contre les adénocarcinomes canalaires pancréatiques. Le cancer du pancréas présente le taux de mortalité le plus élevé de tous les cancers courants. Et les traitements actuels sont donc terriblement inadéquats. C'est ce qu'explique le professeur Andrew Lowy, chef de division d'oncologie chirurgicale à l'Université de San Diego. Nous pensons qu'il sera possible de cibler cette enzyme MICAL2 avec des médicaments, car il s'agit d'une enzyme appartenant à une classe de protéines contre lesquelles des médicaments inhibiteurs ont déjà été développés avec succès pour traiter d'autres maladies humaines. Nous travaillons actuellement à l'identification de médicaments candidats pour commencer le blocage de la fonction de cette enzyme dans le cancer du pancréas. C'est une information vraiment intéressante et donc un nouvel espoir pour le cancer du pancréas. Sans transition, un article qui a été mis en ligne récemment et qui relaie des résultats d'une expérience d'une équipe de chercheurs qui a eu lieu fin 2023. Une équipe de chercheurs qui a mis en lumière une nouvelle phase de glace superionique aux propriétés stupéfiantes. C'était réalisé grâce à des expériences en laboratoire. Et bien cette découverte, dont les résultats ont été publiés dans la revue Scientific Reports, pour expliquer les champs magnétiques complexes des planètes Uranus et Neptune, tout en approfondissant notre compréhension de l'eau dans des conditions extrêmes. La glace superionique est loin d'être l'eau gelée que nous connaissons sur Terre, parce que contrairement à la structure bien ordinée de la glace classique, eh bien cette forme un peu exotique présente une configuration unique, parce que les atomes d'oxygène forment un réseau cristallin solide et les atomes d'hydrogène circulent librement à travers ce réseau. Et donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et cette structure particulière confère à la glace superionique des propriétés conductrices similaires à celles des métaux. Donc c'est assez intéressant et plus surprenant encore, elle reste solide à des températures extrêmement élevées qui dépassent celles parfois de la surface du Soleil. C'est une découverte assez surprenante, c'est de la glace qui résiste à la chaleur, à une chaleur importante. L'équipe de recherche qui était dirigée par la physicienne Arianna Gleason de l'université Stanford a utilisé des techniques de pointe pour essayer de créer et d'étudier cette nouvelle phase de glace superionique. Ces techniques de pointe, justement, ont utilisé, on est sur des lasers très puissants, on est sur des techniques assez sophistiquées. Et les résultats ont révélé que cette glace possède une structure cubique centrée et une conductivité accrue par rapport à une autre glace qu'on avait découvert en 2019. Donc là, ils ont découvert un autre type de glace qui va nous donner justement des informations assez intéressantes, parce que ça ouvre des perspectives pour comprendre des exoplanètes similaires à Neptune. Les astronautes pourraient désormais mieux interpréter les données recueillies sur ces planètes très lointaines en tenant compte de la possible présence de glace superionique dans leur structure interne. De plus, cette découverte pourrait influencer la conception de ces planètes. Les ingénieurs devront prendre en compte un petit peu les propriétés uniques et exceptionnelles de ces glaces pour concevoir les instruments capables de résister aux conditions extrêmes qui règnent dans ces planètes un peu mystérieuses. Donc cette glace superionique nous rappelle que l'univers recèle encore de nombreux secrets. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension des mécanismes complexes qui régissent notre système solaire et au-delà. Mais voilà, on a donc cette découverte surprenante d'une glace qui résiste à la chaleur. C'est quand même assez fascinant. Enfin, je ne sais pas, on a des choses qui... Très troublant, très troublant. Allez, on écoute la valse de Mélodie, Serge Gainsbourg.
Et le bonheur au bras de Mélodie. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'en trouvent sur l'infini. Le soleil est rare et le bonheur aussi, mais tout bouge au bras de Mélodie.
La valse de Mélodie, c'est de Serge Gainsbourg, Experience, sur l'antenne de Graphite. Allez, c'est bientôt la fin de cette émission. Déjà, ça passe tellement vite. Des petites brèves qu'on peut trouver dans Science et Avenir. Alors déjà, des analyses chimiques avancées ont identifié pour la première fois des traces de substances halocylogènes sur une tasse égyptienne. Ça date du 2e siècle avant notre ère. La tasse était peut-être utilisée pour un rituel autour de l'accouchement. Le cocktail un peu psychédélique était aromatisé avec du miel, du sésame, des pignons, de la réglisse et du raisin. Voilà, les Égyptiens buvaient des cocktails hallucinatoires. C'est ce qu'on apprend. C'est intéressant, c'est fascinant. Une étude qui nous vient du Canada, ils ont analysé l'ADN présent dans des sols cultivés durant des années avec du glyphosate. Eh bien, les chercheurs ont découvert qu'une enzyme bactérienne s'était spécialisée dans la dégradation de l'herbicide le plus répandu au monde. Et donc, la séquence génétique identifiée se révèle plus efficace que les formes fabriquées jusque-là en laboratoire. C'est quand même assez fascinant de découvrir cette enzyme naturelle qui dégrade le glyphosate. C'est vrai que ça peut avoir un impact assez intéressant, bien évidemment. Et puis, dans cette étude qui nous vient de l'université d'Orléans et de Perpignan, ils ont fait un constat, les chercheurs de l'INRAE. Les graines du pin maritime ont de la mémoire. Quand on voit ça, c'est quand même assez étonnant et on essaye d'en savoir un petit peu plus. En fait, les chercheurs ont exposé des lots de graines qui possèdent le même patrimoine génétique à des températures différentes, 18, 23 et 28 degrés Celsius, lors de la formation de leur embryon. Puis, ils ont regardé les arbres pousser. Et à 2 ans, les clones soumis à la température idéale de 23 degrés ont grandi plus vite que ceux soumis à une température inférieure ou supérieure. Et les différences se sont estompées ensuite, ce qui signifie que les individus ont fini par perdre la mémoire du stress initial. Les chercheurs ont identifié une dizaine de gènes ayant accumulé des modifications au niveau de l'ADN, ce qui est une preuve d'une mémoire épigénétique qui est une réponse à un impact environnemental. Cette faculté pourrait expliquer une forte baisse de fertilité des pins maritimes. Depuis la fin des années 2010, les forestiers constatent en effet qu'ils produisent en moyenne 2 fois moins de cônes et ceux-ci ne contiennent plus qu'une cinquantaine de graines alors que c'était 3 fois plus auparavant. Les pignons de pin sont sensibles à la chaleur, c'est-à-dire que les pins maritimes dont les graines ont été soumises à des températures élevées produisent des arbres moins fertiles. C'est les résultats que l'on voit de ces équipes de recherche d'Orléans et de Perpignan. Voilà, c'est des petites brèves qu'on peut trouver comme ça sur le site de Futura Science, bien sûr, ce que ça donne, ça permet d'avoir des... comment dire, d'apprendre des petites choses assez sympas et ça vous permet, je sais pas, d'avoir des repas entre amis ou en famille assez instructifs, bien évidemment, parce qu'avec ce genre d'informations, c'était une ancienne rubrique qui existait dans Biotine il y a des années maintenant. Pardon, je suis en train de taper le micro. Une ancienne rubrique qui s'appelait Savoir étaler sa science. Et donc, on avait des petites brèves qui existaient. Et justement, Science et Avenir donne un petit peu cette idée-là, bien évidemment, de petites brèves assez intéressantes sur des sujets totalement fascinants. Donc, en clair, les anciens Égyptiens buvaient des cocktails hallucinatoire. Il y a une enzyme naturelle qui dégrade le glyphosate et les pignons de pin sont sensibles à la chaleur. S'il y a quelque chose à se souvenir de cette émission, ça sera peut-être ça, bien évidemment. Je ne sais pas. C'est peut-être le but un petit peu de cette émission. Allez, on va se quitter parce que c'est la fin de cette émission. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous suivez sur le site internet graphite.net, bien sûr, pour ceux qui souhaitent récupérer les podcasts, par exemple, de toutes les émissions. Et puis sur la bande FM 94.9. Et puis, nouveauté maintenant, il y a cette application que j'ai encore oubliée, Radio Player France. C'est quand même pas compliqué, qui vous permet donc de nous écouter n'importe où, n'importe quand, grâce à votre téléphone portable. C'est beau la vie, c'est beau la science, c'est beau la technologie. On se retrouve samedi prochain. Je compte sur vous. À bientôt. Au revoir.